I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de Fais-tu frette. Déjà la saison 3. Quand je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujets, et bah pour le coup, j'en connais qui se sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle, est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Alors vous savez quoi les amis, de vous à moi, vous pouvez encore vous attendre à quelques saisons en plus de Fais-tu frette. Mon nom est Jean-Michel Lhomme et avec ce podcast je suis vraiment, mais alors vraiment heureux de vous faire découvrir mon nouveau chez moi, le Québec. Bonne écoute. Depuis 2 ans avec Fais-tu frette, je vous parle de la société et de la culture québécoise. Et déjà, au fil des précédents épisodes, vous devez vous dire qu'il y a supercherie dans le descriptif. Car il n'y a pas une, mais bien des cultures québécoises. Tout d'abord, il y a celle qu'on pense connaître, la culture québécoise francophone. En fait, on n'en connaît surtout que l'écume, celle qui arrive jusqu'aux plages de l'autre côté de l'Atlantique. Mais bon, disons que on a des bases. En deux, il y a la culture dont on sait qu'elle existe, mais qu'on a quand même un petit peu de mal à appréhender, la culture québécoise anglophone. Non, parce qu'un Américain, on voit bien ce que c'est. Un Canadien, on a comme une vague idée, mais un Québécois anglophone, il y a quelque chose d'un tantinet conceptuel qui nous laisse pantois. Puis, il y a la culture qu'on ignore totalement, la culture québécoise autochtone. Avec le passage récent du pape au Canada, cette histoire passe désormais un petit peu moins sous les radars. Enfin, tout de même, c'est un océan d'inconnus qui se dévoile devant nous. Et pour simplifier la chose, cette culture autochtone se décline dans une bonne quinzaine de cultures bien distinctes. Mais le défi interculturel du Québec ne s'arrête pas à ces 3 dimensions. Loin de là. On l'a souvent répété ici, le Québec est une terre d'immigration. C'est son histoire. Et aujourd'hui, c'est un besoin vital pour son économie, tant la province est en pénurie de main-d'œuvre, et ce dans tous les secteurs. Alors, dans la rue, au boulot, à l'université ou à la salle de gym, ici, vous allez probablement côtoyer des Mexicains, des Brésiliens, des Algériens, des Marocains, des Sénégalais, des Français, des Danois. Toutes les nationalités du monde se retrouvent ici, au Québec. Et pour des raisons économiques assez évidentes, cette réalité est encore plus forte sur la région de Montréal. Personnellement, Bah, j'adore ça. Mais faut avouer que pour faire fonctionner tout ce petit monde dans un cadre cohérent, efficace et riche en relations humaines, bah, c'est aussi assez compliqué. Chaque interaction, bah, c'est autant de nœuds potentiels. Cécile Lazartic-Chartier est de celles qui se plaît à défaire ses nœuds au quotidien. Spécialiste de l'interculturalité, elle intervient en entreprise, dans les institutions, dans les universités, dans les médias, et aujourd'hui, Platipa, qu'elle est mon invitée. Salut Cécile.
Bonjour, bonjour aux auditeurs. Ravie d'être ici.
Comment vas-tu?
Très très bien, magnifique.
Superbe. Cécile, histoire de lever toute ambiguïté, tu es aujourd'hui franco-canadienne, mais ta voix ne trompe pas, c'est en France que tu as grandi. Depuis combien de temps vis-tu au Québec?
Alors, j'ai passé le cap fatidique du quart de siècle en octobre dernier. Et ça a été un mur que j'ai frappé, j'avais pas réalisé. En fait, on a immigré avec mon mari, c'était pour 1 an, 3 ans, et puis 25 ans après, on est toujours là, avec grand bonheur.
Pourquoi le Québec? Qu'est-ce qui t'a amené d'abord, avant de parler d'interculturalité, à moins que ce soit déjà peut-être un des enjeux, mais qu'est-ce qui t'a amené ici au Québec?
Ben, en fait, moi, j'ai vécu aux Pays-Bas, j'ai vécu en Italie, mon mari avait vécu à l'étranger également. Et puis, pour nous, le voyage, pas les vacances, mais le voyage, la rencontre de l'autre, les autres cultures, c'est toujours un aspect qui a été important dans nos vies. Et puis, à un moment donné, on habitait à Paris, on a eu notre premier enfant, j'avais envie de retrouver quelque chose un équilibre famille-travail, et on est redescendu dans le sud de la France. Mon mari est de Nîmes et moi je suis plutôt de Montpellier, et puis il y avait toujours pas de boulot, et donc mon mari m'a dit ben pourquoi pas partir à l'étranger avec un bébé sous le bras, c'est très très facile, plus que quand il y a une scolarité en jeu, ça serait ponctuel, et puis il faut qu'on parle la langue, donc ça pouvait être espagnol, anglais ou français, que ça soit sécuritaire. Puis on a commencé à regarder, et mon mari un jour m'a dit, moi j'avais lancé un projet qui était une galerie d'art, un salonté galerie d'art à Nîmes, j'avais commencé le projet, c'était un processus, puis mon mari me dit, et si on partait au Québec? Alors moi, qui suis plutôt du sud, le Québec, j'ai oui. Pourquoi pas? On a fait un voyage d'études en janvier parce qu'avec un bébé, je pouvais pas imaginer ce que c'était de vivre par moins 30. Moi, je suis restée 10 jours en janvier. Est-ce que ça a été un coup de foudre? Pas du tout, parce qu'il y avait une grande divergence entre la publicité ou la propagande, par exemple, de la délégation du Québec à Paris, qui nous vantait un Québec mythique, magnifique, l'Eldorado, et la réalité. Et puis, donc moi, je suis rentrée, j'étais un peu mitigée. Mon mari est resté un peu plus longtemps pour rencontrer des gens. Et puis, on s'est dit, bon, ben, c'est une belle aventure, on peut y aller, c'est pas pour toute la vie. On verra sur place. Et puis, on a fait 1 an, 3 ans, et voilà.
Tu sais que tu es l'une des toutes premières personnes, et il commence à y avoir pas mal d'invités qui sont passés par ce micro, qui me dit, ça n'a pas été un coup de foudre.
Non, ouais. J'ai trouvé que c'était très nord-américain, mais pas dans le sens positif. Et puis le fait qu'on soit venu au pire de l'hiver par moins 30, j'ai une oreille qui a gelé, par exemple.
Ah oui, sympa.
La séduction de l'été avec les festivals, etc., elle jouait pas. Donc on était plus dans le vif du sujet. Et c'était le but de notre voyage. Et en fait, c'était mieux de pas être dans ce coup de foudre, parce que après un coup de foudre, la réalité nous rattrape. Alors que là, je suis allée en disant, OK, c'est une aventure, on va voir. Et donc, peut-être que mes attentes étaient moins hautes, que ma projection de ce que j'allais vivre était moins fantasmagorique. Et donc, quand c'était difficile, ben, j'arrivais à gérer. Quand c'était fantastique, ben, c'était génial. Donc, voilà.
En t'écoutant décrire ton parcours, je comprends que bah, toutes ces questions d'interculturalité, étaient vraiment au cœur de ta vie et de ton quotidien, que ce soit par tes voyages, par tes expériences de vie à l'étranger, et même par la culture, puisque la culture artistique, j'entends, parce que tu pensais ouvrir une galerie d'art. Mais à quel moment est-ce qu'on se dit, ce sujet-là est tellement important que j'en fais un métier, que j'en fais, j'ai dit un métier, presque une mission.
Oui. En fait, je pense que j'ai eu la chance d'avoir cette ouverture de par peut-être ma famille et mes intérêts personnels. Cette ouverture et cette conscience que quand j'étais en présence de d'autres cultures, c'était très décoiffant, c'était souvent enthousiasmant et parfois difficile, mais que ça m'enrichissait, ça m'obligeait quelque part à aller au-delà de moi-même pour une version améliorée de moi-même. Donc ça, c'était, j'ai toujours eu cette même enfant, ce wow pour les autres. Et puis j'ai eu un coup de foudre irrémédiable pendant ma formation en communication. Il y a une intervenante qui nous a passé un film sur les paradigmes psychologiques qui influençaient nos décisions, mais dans l'interculturel. C'est-à-dire là, je pense que c'était allemand et anglais par rapport à, versus la, notre mode de pensée française. C'était un vieux film en psychologie, c'était tout moche. Mais je sais pas, c'est comme s'il y avait une connexion dans mon cerveau qui s'est faite en disant, oh my god, mais c'est incroyable, ça ouvre à des possibles que j'avais même pas imaginé. Un, clairement, il y a toute une partie inconsciente qui nous fait avancer et qui nous échappe complètement. Deux, les gens qui sont d'origine géographique ou culturelle différente ont une façon de penser différente. Et ça a été je me souviens encore le choc. C'est comme si dans mon cerveau, il y avait une connexion qui avait pas été faite jusqu'à présent et qui s'était faite. Et toutes mes expériences passées se sont, c'est comme si les pièces d'un puzzle rentraient et me donnaient une vision et j'ai fait, ah, waouh, mais c'est fou, je veux faire ça. Je sais pas comment on se forme, je sais pas comment. Et ça a été vraiment une révélation. Et le cours de ma vie a fait que j'ai été directrice des coms, etc. Mais quand j'ai vécu au Québec, c'était difficile en arrivant de dire je suis en changement, je veux faire de l'interculturel alors que je connaissais même pas le pays. Donc il a été plus facile pour moi d'arriver avec un CV de directrice des coms dans le milieu des arts. Là, les gens arrivaient à me saisir, me mettre dans une boîte, pouvaient m'utiliser à bon escient, etc. Donc j'ai commencé au Québec avec des postes de direction des communications. Puis à un moment donné, je me suis dit non, je veux plus, je veux revenir à cet interculturel. Et c'est là où ma boîte à outils en com m'a beaucoup servi parce que ce sont des outils que j'utilise selon les besoins. Quand je donne de la formation, quand je fais des conférences, quand je dois monter un cours, quand je dois écrire, cette vision de cette capacité d'aller colliger de l'information extrêmement riche et diversifiée, d'avoir un plan, une vision, un plan, une stratégie, et après d'être capable de donner, redonner de l'information qui soit recevable par le public en question. Donc c'est vraiment il y a un truc en France, par exemple, j'ai un peu de mal hein, quand on dit c'est un parcours typique ou un parcours atypique, comme si on était typique. Je veux dire, à part un comptable, et encore, il faut qu'il se mette à jour avec les nouvelles lois ou l'informatique. Mais je veux dire, on a tous des parcours où on part dans un sens, on va chercher de l'information, on a des expériences, on ajoute des strates de compréhension, de conscience, de formation, de choix plus éclairés aussi. Et donc j'ai décidé sciemment d'arrêter de travailler dans le milieu des arts, non pas parce que ça avait plus d'importance, parce que j'adore toujours les arts et que c'est pour moi vital dans une vision de vitalité de la communauté et d'intérêt personnel, mais bien parce que je sentais que je commençais à perdre cet élan fou qui me fait que quand je vais travailler, je suis allumée. J'ai cette envie, cette créativité, que je suis inarrêtable. Là, je commençais à m'épuiser, puis je me suis dit non, il faut que j'arrête. C'est plus ma place, c'est plus là. Je me sentais pas bien, et donc j'ai arrêté de travailler dans le milieu des arts. J'ai fait de la com parce que c'était l'outil que j'avais. Alors, j'ai travaillé pour des clients, je sais pas, stratégie de com, pour des PME, des choses comme ça. Puis, mais il manquait la substantifique moelle. Il y avait quelque chose qui manquait. Et tout d'un coup, j'ai commencé à me former, à revenir, à me dire, ben, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et en fait, c'est l'interculturel. Et curieusement, c'est exactement ce que je faisais en culture. C'est-à-dire, je permets aux gens de faire circuler de l'information qui soit recevable. Donc, je ne suis que le point de jonction entre des gens qui ont quelque chose à dire et des gens qui ont quelque chose à apprendre. Ou donc, quand je fais une conférence, c'est ça. Quand j'accompagne des projets ou des entreprises, je fais ça. Et de participer à quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi en permettant aux gens de développer leur expertise et leur mission de vie, c'est fantastique. C'est incroyable. Je fais exactement la même chose d'une façon différente que quand j'étais directrice des coms. En théâtre ou en danse ou en musique, je n'étais pas l'artiste à communiquer, mais je permettais à un artiste qui avait quelque chose de unique à partager d'être reçu, entendu et diffusé auprès du public ou des subventionneurs ou des programmateurs, etc. Donc c'est extrêmement enthousiasmant parce que on participe à quelque chose de plus grand en enrichissant, en fait, de par notre collaboration. C'est fantastique.
Puisque j'ai une expérience assez similaire, alors non pas en interculturalité, mais en communication, en marketing et en communication, je te confirme, c'est exactement un métier de communicant.
Oui.
S'assurer que le message soit bien perçu, bien exprimé, est bien perçu entre l'émetteur et le récepteur.
Tout à fait.
C'est un pur travail de communicant. Juste avant de venir un petit peu au cœur du sujet, est-ce que ce parcours que tu as décrit, qui t'a permis de passer de l'art en passant par la communication, j'allais dire stratégique, plus traditionnelle, pour t'affirmer et te former sur ce qui est aujourd'hui ton quotidien, l'interculturel, est-ce que tu penses que tu aurais pu le faire aussi naturellement, peut-être avec le même succès ailleurs qu'au Québec, ou est-ce que la société québécoise qu'on présente souvent comme ça, donc c'est pour ça que je te pose la question, est peut-être plus ouverte à ce genre d'évolution professionnelle?
Je pense qu'effectivement le Québec ou après le Canada aussi m'a permis d'explorer et d'aller plus en profondeur et aussi m'a laissé l'espace pour me former et me sentir légitime là-dedans. Si j'avais été formée en management interculturel à 22 ans et demi, que j'étais partie en stage à Hong Kong et que j'étais revenue pour travailler à Londres, j'aurais eu une légitimité éducationnelle, sociale. J'aurais été reconnue, mais est-ce que j'aurais eu cette maturité? Pas du tout. Alors qu'au Québec, et puis aussi parce que maintenant je suis senior, toutes les expériences m'ont permis d'ajouter de la valeur à ce que je pouvais proposer. Et non pas de partir d'une théorie au départ, mais bien du goût des autres, allié à de la théorie et de la formation et de la pratique. Quand j'étais directrice des communications, tu le sais parfaitement, puisque toi, tu as aussi cette expérience, on n'est pas les spécialistes de ce qu'on a à diffuser, mais on doit appréhender les enjeux de nos, par exemple, annonceurs ou de nos clients afin de comprendre comment on peut les aligner pour que ça soit recevable. D'où mon intérêt et mon choix d'avoir fait un DESS de commerce international quand c'était encore en France, parce que même si j'avais une grande culture générale, que j'avais des outils de communication, j'avais la conscience que j'avais pas la vision réelle des enjeux des entreprises. En faisant ma formation de commerce international, je suis allée chercher des outils et une culture générale de l'entreprise de l'intérieur, non pas pour y travailler, parce que j'ai jamais travaillé en commerce international après, mais bien pour comprendre les enjeux. Ben oui, les douanes, la législation, le plan comptable, ça fait partie des enjeux. C'est pas juste, on doit se comprendre en réunion et notre client à Singapour ou à Buenos Aires doit comprendre ce qu'on veut faire. Il y a aussi des enjeux terribles de dédouanement, de peu importe. Et cette culture générale du DESS, c'était fantastique parce que j'ai ramé, on va le dire, lamentablement pour comprendre un plan comptable parce que c'est pas du tout dans mon genre d'intelligence. La législation sur les douanes, ça ne me fait pas frétiller, mais par contre, comprendre la stratégie marketing d'une entreprise qui va à l'international, qui ouvre une filiale, ça c'était fantastique. Puis tout ce qui est comme stratégie, marketing, relations internationales, comme la négociation, ça m'a complètement allumée. Et donc ces outils-là sont venus ajouter à ma boîte à outils perso en commerce international. Donc maintenant, quand je parle récemment, il y a un client qui me parlait de dédouanement et de ce que ça a provoqué chez eux avec la crise actuelle, etc. Et comment ils n'arrivaient pas à gérer. Mais j'ai fait fantastique, je comprends. Je ne travaille pas dedans, mais je comprends de quoi il me parle. Donc, je suis en mesure d'adapter ma formation, mon soutien, exactement à ce dont il a besoin. Donc, peut-être
que j'ai
dévié... J'ai bien répondu à ma question.
On est à fond dans l'interculturel parce que,
oui,
si je comprends bien, tu as fait l'effort, même si ça t'intéressait pas plus que ça, mais de te mettre en mesure de comprendre l'autre pour mieux derrière le servir et renvoyer son message. Mais faire l'effort de comprendre l'autre, quitte à ce que ce soit parfois un petit peu douloureux, un petit peu de travail, enfin que ce soit pas aisé, je pense que ça va faire partie des bases de l'émission d'aujourd'hui. Dans mon introduction, je décris le Québec comme un bouillon de culture interculturelle. Est-ce que j'ai un petit peu exagéré, dis donc ?
Non, pas du tout. Quand on regarde, alors toi et moi, on est d'origine française, mais donc on a immigré. Et puis on regarde, si on fait chronologiquement, on remonte dans le temps, il y a des strates d'immigration diverses, syrienne, italienne, irlandaise, française, anglaise. Et puis quand on regarde au niveau de la ligne du temps, le Québec, le Canada ou l'Amérique du Nord en règle générale, mais pour revenir au Québec, nous sommes effectivement, comme tu l'as si justement souligné, une terre d'immigration. Mais par exemple, quand certains immigrants récents me disent « Oui, mais les Québécois… » Je dis « Mais quels Québécois ?»« Oui, les Québécois pure laine. » Je dis « Pure laine. » »« Oui, ben ceux qui étaient là avant. » Je dis « Ok, ceux qui étaient là avant. » Donc, je creuse cette thématique de qui… est légitime sur le territoire, qui est vraiment chez lui et comment ça se passe. Et quand je travaille avec les immigrants qui me disent « Oui, les vrais Québécois, j'ai fait vrai Québécois. » Qu'est-ce que vous entendez par vrai Québécois ? Donc, on arrive à pure laine. Donc, en règle générale, ils font référence à des personnes venant, par exemple, d'Europe au moment de… au XVIe siècle, etc. Donc, qui ont des familles qui sont là depuis plusieurs siècles. Et donc, je pose la question fatidique. Donc, c'est eux les vrais Québécois. Alors, les gens avec qui je donne des formations me connaissent et je suis jamais dans le jugement. Je travaille à ça parce que c'est extrêmement important. Et ils savent aussi que j'aime bien manier l'humour. Ils disent, non, ben, pas les vrais Québécois, mais les Québécois. Donc, on creuse, on essaye de retirer les couches de l'oignon pour arriver à ce qu'on croit vraiment et la vraie question. Et donc, je dis, donc, les vrais Québécois, c'est ceux qui sont légitimes, qui sont arrivés il y a plusieurs siècles avec la colonisation française ou anglaise, à laquelle tu faisais référence. Donc, c'est eux. Et en général, on dit, ben, oui, j'ai un quai. Donc, ils ont toujours été là. Alors là, il y a souvent un blanc, mais, ah ben non, parce qu'ils sont arrivés. OK. Donc, avant, il y avait personne? Ah ben si, il y avait des gens. C'était qui? Ah ben c'était les Premières Nations, les autochtones. Ah, donc de l'immigration maintenant aux Italiens des années 50 ou 40 à la colonisation des Français et des Anglais. OK, si on remonte avant, donc avant, ben il y avait des autochtones. Donc avant la colonisation européenne de l'Amérique du Nord, il y avait des autochtones. Et la question que je pose après, donc ils disent ah oui, alors donc je dis mais alors c'est qui les vrais Québécois? Ou les vrais Canadiens. Puis je dis, mais est-ce qu'ils étaient là depuis toujours? Ah ben oui. Ah, je dis, ah oui, depuis toujours. Et quand je leur dis, ben finalement, même les Premières Nations sont arrivées d'Asie par le détroit de Bering quand c'était encore possible de marcher. Et que, bon, ça fait plusieurs millénaires, on s'entend, mais... Et là, il y a un blanc, c'est alors... Et donc, je reviens à aujourd'hui, je dis, donc, qui a le droit? Qui est légitime? Qui a sa place ici? Alors là, souvent, il y a des petits points d'interrogation et les gens me disent, ouais, mais en fait, ben, tout le monde. Et ben, écoute. Et le slogan de mon entreprise, c'est ici, maintenant et ensemble. Parce que c'est ça. C'est que oui, il faut être conscient de l'histoire, des jalons de l'histoire qui nous permettent de comprendre mieux la vision globale. Ça, c'est extrêmement important. Mais au-delà de ça, une fois qu'on a compris qu'il y avait les autochtones en premier, qu'il y a eu la colonisation, que les strates d'immigration sont arrivées. OK, c'est super de connaître tout ça. Maintenant, on fait quoi ensemble ici? Aujourd'hui, là, ensemble. Et si on est là, ensemble, ben, c'est qu'on est légitime puisqu'on est là. Donc, si on est là, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la part de responsabilité de chacun pour collaborer à un meilleur vivre ensemble? Et bon, ça paraît un peu prêchi-prêcha à certains, mais maintenant j'assume totalement de m'exprimer comme ça. C'est un mélange, c'est un équilibre savant et extrêmement exigeant entre pragmatisme et humanisme. Moi, en tant que Cécile, ce qui m'importe fondamentalement, c'est l'humain. Mais je sais aussi que l'entreprise, l'organisation, la communauté ne peut fonctionner que si on arrive à une pérennité. Donc, pour trouver une pérennité positive, il faut que l'entreprise marche, qu'on soit en mesure de livrer à temps les services ou les produits attendus, de façon avec une qualité attendue. Mais en même temps, pour moi, c'est extrêmement important que l'humain se sente légitime et sa place, l'espace pour développer son potentiel au service en premier de lui-même et après de l'autre, de la communauté, de l'entreprise, etc. Donc, c'est cet équilibre extrêmement exigeant entre l'humanisme et le pragmatisme qui permet, de même qu'un funambule arrive à arriver de l'autre côté de son fil, de dire, bon, bah, des fois, on est un peu trop trop pragmatique, donc il faut remettre un peu d'humanisme. Des fois, on est un peu trop pelleteur de nuages. Et puis, il faut revenir aux chiffres, aux deadlines, etc. Mais trouver cet équilibre qui permet justement que la vie soit plus pétillante, en fait, plus vibrante.
Toujours dans cette introduction, j'ai présenté un peu ce défi interculturel à deux niveaux. Alors évidemment, il y a le niveau auquel, moi qui me saute aux yeux tout de suite, qui va être le niveau qui concerne l'immigration, les Français, les Algériens, les Syriens, les Ukrainiens, et ainsi de suite, parce que j'en suis, et moi, contrairement à toi, c'est encore relativement récent, donc c'est mon quotidien. Ceci étant, quand je regarde les informations, quand je lis la presse, que j'observe tout simplement ce qui se passe un petit peu ici, je vois bien quand même qu'il y a un schisme qui est assez fort, assez lourd, entre ce que je disais, à savoir... Québécois francophone, Québécois anglophone, ou on va dire canadien anglophone, voilà, il y a différents verbatims, et aussi effectivement toutes les cultures autochtones. J'aimerais juste savoir si toi qui es amené à intervenir auprès des institutions, des entreprises, Est-ce que tu interviens déjà juste sur, parfois juste sur ce niveau-là? Est-ce que c'est une difficulté ou est-ce que non, on se pose la question de l'interculturel seulement quand il y a, j'allais dire un petit peu plus de, d'international, si je peux le dire comme ça.
Alors, au Québec, au Canada, aux États-Unis, dans une différente approche, la diversity, on est vraiment dans la diversité globale, c'est-à-dire diversité ethnoculturelle, linguistique, d'âge. Ça, c'est toutes les points que j'aborde en diversité. Donc l'âge, l'orientation sexuelle, neurodiversité, éducationnelle aussi. Comment on fait pour qu'une équipe puisse inclure de façon intelligente et efficace, voire soyons fous, efficiente, des gens avec des bagages culturels et éducationnels différents. Donc la diversité, en fait, c'est pas juste vous venez d'où, vous mangez quoi ou vous parlez quoi. C'est dans mes formations, dans la conférence, mes conférences sont plus thématiques. Donc par exemple en RH, comment on fait pour charmer les immigrants pour qu'ils rentrent dans les entreprises et y restent. Et les entreprises, comment faites-vous pour justement travailler sur cette rétention de personnel? Mais quand je fais de la formation interculturelle, je vais plus en profondeur. C'est-à-dire, au lieu d'être dans la finalité de l'équation de la diversité, par exemple en commerce international, faire l'étiquette. On va faire des affaires au Japon, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut mettre les mains comme ça, il faut donner la carte comme ci, on doit dire monsieur, on doit baisser la tête. Ça, c'est l'étiquette, c'est la finalité en commerce international. Au Québec, on doit être inclusif. C'est le mot à la mode. On doit faire de l'EDI, équité, diversité, inclusion. Pour des raisons historiques, pour des raisons très réalistes, nous sommes un pays d'immigration. Pour des raisons que tu as évoquées de pénurie de main-d'œuvre, donc on doit bien faire quelque chose pour faire venir des gens et qu'ils restent et qu'ils soient efficaces. Donc toutes ces questions sont abordées là-dedans. Je viens de perdre le fil conducteur de ta question.
Ma question initiale, mais t'as déjà pas mal dit.
Ah oui, excuse-moi.
C'était sur les questions anglophones, francophones, autochtones.
Et autochtones. Je dirais que nous avons tous, dans notre culture ou personnellement, des tabous. Nous avons des zones d'ombre. Nous avons des biais cognitifs qui nous font esquiver, flouter, même parfois nier, parfois oublier, dépend de notre histoire, de nos références. On fait référence aux anglo et aux franco comme deux solitudes. Il y a des choses qui changent, heureusement, positivement, mais c'est quand même une réalité. On est campé sur notre bon droit et notre bonne volonté. C'est comme si qu'il faut faire ça, c'est comme ça, ça devrait, pourquoi pas. Donc là, on pourrait rentrer dans des références politiques auxquelles je ne ferai pas du tout référence. C'est quand même des solitudes qui se côtoient. Maintenant, toi, tu fais référence aux anglo, aux franco, aux Premières Nations. Moi, je dirais, il y a aussi l'immigration de différentes strates. Parce que, par exemple, les Italiens, la vague d'immigration italienne dans les années 40-50, ont eu la possibilité, donc ils parlaient italien à la maison, et de fréquenter l'école anglophone. Donc, souvent, les gens d'origine italienne au Québec parlent italien, anglais, et français aussi, mais différemment. Alors que, donc c'est vraiment le fait que, par exemple, nous ayons des circuits scolaires différents, la commission scolaire English Montreal, c'est pour les anglophones. La commission scolaire de Montréal est pour les francophones. Il y a aussi, d'où l'intérêt, je reviens à l'histoire et la nécessité d'avoir des jalons historiques pour comprendre, non pas juger, mais comprendre le pourquoi du comment, pourquoi les francophones, le clergé catholique exigeait des femmes catholiques la revanche des berceaux, ce qu'on appelait la revanche des berceaux, c'est-à-dire chaque année, le curé venait à la maison si la femme de la famille n'était pas enceinte chaque année. Donc, ça fait des gens qui, je dirais, au-dessus de 60 ans, ont 8, 9, 12, 14, 18 frères et sœurs, ou ont eu 14 frères et sœurs. Donc, ça, c'était la revanche des berceaux des catholiques francophones par rapport historiquement, à la puissance, à l'argent des anglophones. Donc, c'est très important de comprendre comment se situe la vision globale de qui a vécu quoi et pourquoi il pense ça. Par exemple, un exemple fracassant que je partage comme non pas pour parler de moi, mais pour montrer à quel point on ne sait pas qu'on ne sait pas. Quand je suis arrivée, ma fille aînée, quand je suis arrivée au Québec, ma fille aînée avait été petite et je voulais la faire rentrer dans une école anglophone, publique anglophone. Pourquoi? Parce que si j'avais vécu en Espagne, je l'aurais mise dans une école espagnole. Si j'avais vécu en Allemagne, j'aurais fait le même, au Portugal de même, ou au Brésil. J'avais envie que ma fille s'imprègne de la culture locale. Or, comme mon mari et moi, nous avons fait l'intégralité de notre scolarité en francophonie, nous n'avions pas le droit de mettre notre fille à l'école anglophone, publique anglophone. Et je me suis permis d'exprimer le fait que je trouvais que c'était une erreur et que je ne comprenais pas et que ça n'avait pas de sens pour moi auprès d'amis québécois qui l'ont pas très très bien pris. Et moi, j'étais sûre de mon bon droit en disant « je vis à l'étranger, je veux que ma fille apprenne la langue locale, etc. » Et on m'a expliqué qu'il y avait la loi 101 qui obligeait les francophones à mettre leurs enfants ou les immigrés à mettre leurs enfants à l'école francophone pour prendre soin de la langue française et de préserver cette culture, etc. Et bon, à l'époque, personne n'est parfait, j'étais un peu nouille. Je me suis permis de dire, ça c'est complètement idiot et moi j'aimerais mettre... Donc, j'ai pas pu mettre mes enfants à l'école anglophone et grand bien m'a pris. Merci le Québec. Pourquoi? Parce que mes filles ont pu avoir un parcours scolaire fantastique dans des écoles publiques de très grande qualité. Elles ont été après au secondaire en international public. Et après, elles étaient soit à Concordia, soit à McGill, donc elles avaient des outils de qualité. Mais elles ont eu ces deux choses, c'est-à-dire que elles ont pu avoir le français non pas comme la langue qu'on parle seulement à la maison, mais bien de leurs amis, de leur culture, de leurs références québécoises. Et elles ont appris l'anglais très très bien. Elles ont fait une partie de leurs études supérieures en anglais. Il y a une de mes filles qui a vécu 6 mois en Australie. Maintenant, elle vit en Scandinavie et elle vit en anglais. Donc, c'est cette juxtaposition. Et quand je parle de ça, c'est pour montrer que même moi, qui suis une experte en interculturel, j'étais tellement braquée sur « je veux, je dois, ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Avec une bonne volonté, parce que moi, c'était pour une acquisition d'une nouvelle langue. Mais il y avait tout un pan de compréhension locale, culturelle, qui m'échappait. Et je suis super contente que mes filles aient fait toute leur scolarité jusqu'à la fin du secondaire en français. Parce que maintenant, elles sont complètement bilingues, mais elles ont cet ancrage culturel québécois fantastique.
J'avais pas prévu cette question, mais puisque tu as abordé le sujet, je vais te la poser, parce que moi, à titre perso, en tout cas, elle m'intéresse bigrement. C'était peut-être pas le cas à l'époque, quand tu quand tu as dû placer tes enfants. Mais moi, le sentiment que j'ai aujourd'hui au niveau du Canada, c'est que cette magnifique ambition du bilinguisme a été totalement abandonnée. Pour diverses raisons, et ça c'est historique, mais j'ai un peu quand même l'impression que dans tout le reste du Canada, comme ils disent, the rock,
ouais.
Rest of Canada, le français est perçu comme, on va dire, soit une langue historique et culturelle, enfin voilà, c'est, ou artistique, je sais pas, enfin pas quelque chose d'usuel en tout cas, voire parfois carrément une langue qui pour vous empêcher de tourner en rond. Je pense notamment à tous les gens qui veulent bosser dans l'administration, dans tout le reste du Canada, qui en imposent de devoir parler français alors qu'ils ont l'impression qu'ils ne croiseront jamais de leur vie quelqu'un qui parle français, donc ils le vivent très mal, voilà. Et on a à peu près le même pendant ici au Québec, où bah, comme on veut vraiment conserver et défendre la langue française, hein, 8 millions de francophones entourés par 360 millions d'anglophones, bah forcément on s'arc-boute un petit peu, et quitte à être un petit peu, j'allais dire, dur en vis-à-vis des anglophones, ça crée là aussi un petit peu de solitude. Et j'ai l'impression qu'on a totalement perdu ce que moi je trouvais être une magnifique ambition, à savoir le bilinguisme, que partout, et non pas au Québec, mais partout au Canada, on parle les deux langues, et peut-être une en priorité, mais qu'on parle les deux. Et est-ce que cette perte d'ambition du bilinguisme est pas un énorme problème dans l'approche interculturelle du Canada?
Alors, moi je suis plutôt quelqu'un qui voit le verre à moitié plein.
Ah, donc, comme toi, tu vois, moi je suis encore un peu français, toi t'es carrément déjà québécoise, il n'y a pas à dire.
Il y a une vitalité des francophones hors Québec qui est fantastique. Par exemple, à Moncton, il y a des universités qui offrent des programmes en français. Il y a la Fédération des francophones de Colombie-Britannique qui est extrêmement dynamique. En Alberta, il y a des communautés où on propose des parcours scolaires en français. Alors, oui, clairement, ce sont de grands, grands défis, et la réalité de l'anglophonie en Amérique du Nord est une réalité. Et bon, là, ça fait un peu vieille grand-mère, mais c'est la mondialisation, la globalisation, l'impérialisme culturel américain, etc. Comme référence du rêve et du fantasme qu'on nous vend très très bien d'ailleurs, et qu'on nous on achète très bien aussi, mais je pense que de revenir à non pas l'individualité, mais de dire qu'est-ce que moi je peux faire pour changer dans ma communauté. J'ai récemment revu des Québécois bilingues, parce que leurs parents étaient d'une part anglophone et l'autre francophone, donc c'est des gens qui ont les deux langues. La personne à laquelle je faisais référence vit à Vancouver actuellement, et il me disait que en fait eux se sont engagés dans la francophonie en Colombie-Britannique, justement parce que ils ont des enfants jeunes, ils veulent changer, ils veulent perpétuer cette connaissance culturelle, linguistique du français, et donc ils sont actifs. Et là, j'aborde un aspect qui est extrêmement important, c'est l'engagement par rapport à la communauté. C'est-à-dire, au lieu... Bon, là, je vais parler d'extrême et de caricature, mais au lieu de râler pour tout, sur tout, comme on faisait en France, comme on fait en France parfois, sans amener de plus-value, c'est-à-dire, je suis conscient qu'il y a quelque chose qui va pas, je râle dessus, point. OK. Donc, si on est conscient de quelque chose qui fonctionne pas et qu'on a toujours une latitude, aussi modeste soit-elle, de faire un changement, ben, let's go. Si ça te convient pas, vas-y, fais quelque chose. Qu'est-ce que toi, tu peux faire dans l'école de tes enfants, dans ton quartier, avec ton voisin, dans ton boulot, dans ton club de vélo, dans ta communauté, peu importe. Sans être des politiciens, sans être des gens, on a toujours cet espace de liberté où on peut faire un vrai changement. Et cet engagement, Ben, par exemple, au Québec, et je suis pas du tout dans l'Eldorado, je suis pas du tout complètement avec des œillères roses par rapport au Québec. C'est pas du tout l'Eldorado. Mais il y a des aspects tellement positifs qu'il faut les appréhender, il faut les prendre, je veux dire, les embrasser pour qu'ils nous servent à faire quelque chose de positif dans notre vie professionnelle, dans notre vie amicale et pour nos enfants et pour la communauté. Donc, le bénévolat, par exemple, est un aspect. Bon, en France, on a plutôt l'idée du bénévolat comme les bonnes œuvres, soit religieuses, soit parce qu'on est riche et qu'on veut faire quelque chose pour les pauvres. Mais ici, le bénévolat, c'est pas du tout ça. Bon, c'est aussi ça. Il y a des parties qui sont reliées à la religion, mais sinon, c'est on a une communauté. Moi, je suis une fanatique, par exemple, je dis n'importe quoi de course à pied. Ben, je vais faire du bénévolat dans un club. Les enfants, par exemple, dans les écoles québécoises, sont amenés à faire du bénévolat très rapidement, très jeunes. C'est-à-dire, non pas comme se sacrifier pour… Non, pas du tout. C'est je sais faire quelque chose, je vais faire du mentorat. Je suis en quatrième année, c'est-à-dire sciemment, je suis capable de faire du mentorat avec les petits. Mais moi, de faire du mentorat à, mettons, 9 ans, avec des petits, ça va me permettre d'être obligée d'apprendre à diffuser de l'information que je dois déjà intégrer vraiment pour que le petit puisse comprendre ce que je vais lui dire. Et de gérer qu'un petit, il bouge plus qu'un plus grand, de gérer mes horaires. Donc, il y a tout un apprentissage. Et moi, je dis toujours aux gens, faites du bénévolat, vous allez recevoir 2 fois plus que vous allez donner en expérience, en compréhension, en assimilation complètement inconsciente, rapidement, en réseau, en expertise, en information. Enfin, c'est incroyable. Donc, cette vision du bénévolat qui est pas du tout prêchi-prêcha, qui est très pragmatique finalement. C'est, on est une communauté, je sais faire, je veux ou j'aime. Alors, je dis aux gens, ne faites pas un bénévolat que vous pensez qui est bien pour votre CV. Faites un bénévolat qui vous allume. Parce que si vous adorez les enfants, allez pas donner la soupe ou faire des animations auprès de personnes âgées. Vous allez pas être à votre place, vous allez pas être bon, les gens vont pas vous apprécier, vous allez côtoyer des gens avec qui vous avez finalement pas d'affinité. Alors que si vous choisissez culturel, éducation, jeunes, personnes âgées, malades, sport, artistique, si vous faites un bénévolat qui a du sens pour vous, qui vous allume, qui vous enrichit, vous allez vous faire des copains qui ont les mêmes centres d'intérêt. Vous allez découvrir des possibilités incroyables. Si vous êtes un fanatique de randonnée extrême et que vous faites, je sais pas, une porte ouverte dans un truc, oui, vous allez travailler toute la journée pour distribuer des tracts et expliquer, mais aussi votre voisin ou votre voisine de stand va vous dire « Ah, mais est-ce que tu connais telle sortie ? Ah, ben il y a tel mont à… » Et là, tout d'un coup, vous allez vous enrichir, vous allumer, développer votre réseau, comprendre mieux aussi. Voir des gens interagir en milieu de la société sans qu'il y ait un impact direct sur votre activité professionnelle. C'est-à-dire que vous allez chercher de la… Non, vous n'allez même pas chercher, vous allez recevoir de l'information de première main, comment on gère un planning, le temps, l'amitié, comment on gère un conflit, comment ça se gère ici. C'est toutes des informations que vous allez prendre de façon inconsciente et qui vont vous permettre de vous intégrer mieux, plus profondément et plus harmonieusement. Donc, c'est cette vision, par exemple, pour les langues, nous, on a décidé, on était locataire quand on est arrivé au Québec, bien sûr, quand on a décidé de rester plus longtemps, on a décidé d'acheter une maison dans l'West Island. Et nos Français, nos amis Français ont dit, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas?
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag.
Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un milieu de vie à nos enfants où il y aura l'école en français, mais les voisins seront sûrement anglophones. Quand il y aura des parties ou des activités scolaires ou à la bibliothèque, ma bibliothèque de quartier est bilingue. Donc, il y a des heures du compte en français, il y a des heures du compte en anglais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme maman? Ben, j'ai mis mes filles à l'heure du compte en anglais. Alors, et au début, elles comprenaient absolument rien, mais il y avait des enfants, ça, c'était le fun et tout. Puis après, elles se sont fait des amis. Puis après, et voilà. Comment appréhender de façon créative ce métissage culturel anglo-franco, mais aussi d'autres origines culturelles. Et par exemple, mes filles étaient dans un collège public international et je pense que c'était en troisième année secondaire ou deuxième année. Ouais. Elles avaient une activité. Elles devaient aller dans un lieu de culte différent de soit leur culture, soit de leur pratique. Et donc, il y a une de mes filles qui a été invitée dans un temple sikh. Et donc, elle est revenue complètement. Donc, elle allait avec des jeunes qui avaient cette pratique-là. Elle est revenue complètement. Waouh, c'est trop comme si, c'est beau, c'est nanana. Et donc, cette intégration des différences est absolument fantastique. Est-ce que c'est idyllique? Pas du tout. Est-ce qu'il n'y a pas des grands défis? Bien sûr que si. Est-ce qu'il n'y a pas de racisme? Partout où il y a des humains, il y a du racisme. Parce que l'autre qui est différent nous dérange. Le travail de l'interculturel, c'est aussi d'être capable d'accepter ça, ce biais cognitif de dire l'autre qui est différent me dérange. Alors, comment je gère cet inconfort, parfois cette fatigue de toujours devoir expliquer, comprendre, changer mon point de vue, faire cet exercice tout le temps de dire ah oui mais c'est normal. Quand je vais en France, quel bonheur d'avoir les mêmes références culturelles, de pas être obligé d'expliquer, de savoir que si quelqu'un fait tel mouvement, ben ça veut dire ça, d'être capable de décoder rapidement inconsciemment le non-verbal, de lire un journal et c'est reposant d'avoir tous les mêmes références conscientes ou inconscientes, mais Dieu que c'est beaucoup, enfin Dieu n'a rien à voir là-dedans d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis cette expression.
Laissons-le où il est.
Oui, que c'est enthousiasmant et vibrant de rencontrer l'autre en fait, parce que l'autre nous fait grandir. C'est ça qui c'est ces défis. Alors, par rapport à l'interculturel, c'est important aussi d'être capable de vivre dans le et, c'est-à-dire pas d'essayer de devenir un Québécois ou un Canadien ou peu importe où on va vivre ailleurs, mais bien d'accepter que nous sommes nos origines, nos références, notre culture, notre éducation, et en même temps de vivre sur un autre territoire avec d'autres références. Par exemple, j'ai une amie qui est nutritionniste internationale, une Québécoise, et elle, j'utilise toujours cet exemple parce que j'aime beaucoup, c'est, elle donne dans ses formations culinaires internationales, elle donne l'image du pâté chinois, donc qui est une recette québécoise très importante, une référence avec la pomme de terre,
la viande.
En gros,
c'est un chip parmentier avec une couche de maïs en plus.
Voilà, tout à fait. Mais elle le propose avec des patates douces. Donc, c'est une façon d'inclure les gens qui sont d'ailleurs, la patate douce dans les Caraïbes ou en Afrique, et quand même de trouver un vivre ensemble avec une référence commune. Donc c'est ça qui c'est pas le multiculturel où il y a la juxtaposition étanche entre les cultures, mais bien la rencontre interculturelle.
Les passerelles.
Oui, tout à fait. Et d'accepter que moi je viens du Liban et la feuille de vigne c'est fourrée au riz, c'est hyper important pour moi, mais en même temps je vais à la cabane à sucre et je mange les haricots blancs avec le sirop d'érable et à Noël ben on est capable de faire des mélanges parce que j'honore là d'où je viens et en même temps là où je suis. C'est comme si on acceptait de dire c'est pas où, c'est la vie n'est pas manichéenne, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a une zone grise où des fois c'est plus clair, des fois plus foncé, des fois, je me sens plus française. Des fois, je supporte pas certains aspects français et je choisis de vivifier des aspects québécois. Mais d'être conscient. Et en fait, le travail interculturel pour l'entreprise, pour la communauté et ultimement, au départ, pour soi-même, c'est en premier lieu de prendre conscience, de faire un travail qui est exigeant, de prendre conscience de nos préférences personnelles et culturelle, c'est-à-dire un petit exemple tout simple, une thématique interculturelle qui est notre vision de la hiérarchie, que ce soit la hiérarchie sociale ou dans l'entreprise, comment je me situe par rapport à ça? Est-ce que moi, au niveau national, bon, par exemple en tant que Française, clairement, on m'a éduquée et inconsciemment, j'ai intégré que la hiérarchie, c'est de haut en bas et que il y a des strates et que c'est peu poreux et qu'il faut passer par le plus un, que si on a un grand titre, on a une valeur plus grande dans l'entreprise et ou dans la société et ou dans notre famille. Alors que ici, est-ce que c'est mieux? Pas du tout. C'est pas un jugement de valeur, c'est comprendre. Alors que ici, par exemple, en Amérique du Nord, au Québec en particulier, la hiérarchie sera plus horizontalisée. Est-ce que pour autant on est copain avec notre boss? Pas forcément. Est-ce que c'est on se tutoie et qu'on est pote? Pas forcément. Parce que le jour où le boss doit vous virer, il vous virera
Juste y diras-tu.
Exactement. Et il vous dira en plus, c'est pas personnel. C'est-à-dire, on t'a embauché pour une mission. Pour des raisons X ou Y, tu ne corresponds pas à ce dont on a besoin, donc on te vire. Mais c'est pas personnel. Et c'est une réalité que c'est pas personnel. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on t'aime pas qu'on te vire. C'est parce que tu es venu ici pour faire de la compta ou pour faire du marketing. Puis ce que tu livres, on essaiera de te recadrer. Mais si ça marche pas ultimement, on te vire. Parce que c'est ça pour lequel on t'a embauché. Donc, cette vision, certains Français disent « Ah, mais j'étais copain avec mon boss, comment il a pu me faire ça ?» C'est pas personnel. T'es pas allé chercher il t'a pas embauché un copain. Il a embauché un type ou une fille pour livrer une marchandise ou un dossier ou un produit. Ça s'est pas fait et peut-être que vous serez plus heureux ailleurs, d'ailleurs, parce que c'était pas le bon endroit. Et les Français disent « Ah, comment ils ont pu me faire ça ?» Non, on est dans le capitalisme pragmatique. On vous embauche, ça marche, tant mieux, on vous garde. Ça marche pas, vous dégagez.
Et on n'est pas forcément fâché.
Pas du tout, pas du tout. Et on est dans le pragmatisme.
Il faut vraiment faire l'effort de comprendre l'autre, en fait. C'est vraiment ça. De se dire, ah, je le juge pas forcément avec ma grille de lecture habituelle.
Tout à fait.
Mais je vais faire l'effort d'essayer de comprendre, de juger si je dois absolument la juger parce que c'est mon caractère, juger la situation, mais avec l'œil de l'autre. Moi, je vais donner un exemple. Il se trouve que pour une autre partie de mes activités professionnelles, je fais en ce moment beaucoup d'interviews politiques. Et je constate que les gens s'en tamponnent le coquillard comme de l'an 40, mais alors d'une force, c'est absolument incroyable. Alors qu'en France, il y a quand même des petites piques dedans, des machins, des trucs. Enfin, Ça buzzerait, comme on dit. Non, ici, ils s'en contrefoutent. Très facilement, on pourrait se dire, bon, la politique au Québec, ils en ont vraiment rien à secouer, quoi. Et c'est des gens foutistes, ils s'en foutent. Bah, c'est pas tout à fait ça, en fait.
Non.
C'est parce que la politique pour eux, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. C'est du quotidien, c'est de l'action, c'est de l'investissement personnel. C'est pas forcément des grandes théories fumeuses à l'Assemblée où on fait voilà, c'est juste différent, voilà.
Oui.
Ils sont très engagés. Oui. Pas forcément dans leur bulletin de vote, les taux de participation sont nazes, mais ils sont très engagés. Oui. Mais c'est juste différent et c'est vrai que si on regarde une situation avec l'œil que l'on avait qui fonctionnait bien et qu'on a toujours eu entre guillemets et qu'on le regarde avec cet œil-là, on se dit bah ça déconne, ça marche pas. Et forcément, on va jamais y arriver, ça c'est sûr. Par contre, si on fait l'effort de se dire « Ah mais attends, je vais me mettre à sa place un petit peu, je vais regarder la situation dans le d'un autre point de vue. » Ah ouais, on a le droit de trouver que c'est une erreur, mais on va comprendre qu'il y a une autre vision possible.
Alors, je pense que c'est important ce que tu viens de souligner, c'est vraiment important. C'est comme le « et ». C'est-à-dire que il faut qu'on développe cette intelligence culturelle de se décentrer et de regarder les choses. Et une fois qu'on a fait cet exercice-là et qu'on tend vers le non-jugement, mais bien la compréhension, on est humain et c'est important aussi d'être capable d'accepter qu'on a une opinion et que on trouve ceci bleu, vert ou jaune. C'est parfait. Mais c'est cet exercice d'une façon concomitante de comprendre sans juger et d'avoir notre opinion personnelle. De venir de France et de changer par exemple nos expressions idiomatiques pour être mieux compris au Québec.
On en revient à la communication, à ce qu'on disait au début. S'assurer d'être bien compris par les gens à qui on veut transmettre un message. C'est quand même la base.
Et par exemple, en marketing et en communication, quand j'interviens en interculturel, les Français qui arrivent, par exemple, pour les agences de pub ou les trucs comme ça, je leur dis, OK, direct to the point. Tu retires toute la théorie, les beaux mots, les belles phrases. Tu fais des phrases courtes, sujet, verbe. Tu peux mettre un complément de temps en temps, mais pas trop. Tu mets pas trois lignes de phrases avec des propositions qui mettent en perspective. Non, ça marche pas. Alors, est-ce que moi, je préfère la phrase qui fait quatre lignes? Ça se peut. Et c'est OK de préférer ça. Mais si tu travailles en marketing ou si, par exemple, tu fais de la formation, il faut que ce soit ultra organisé, ultra clair. Avec des points, une conclusion, une vision, une stratégie très, 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 très dépouillée. Alors, j'en dis oui, mais il faut quand même, oui, tu mets en perspective, tu fais une introduction, mais rapide, là, on rentre direct to the point. J'aime cette expression parce que c'est direct, ça veut dire tout de suite, tout droit, directement, to the point. C'est cet anglicisme qui est franco-anglo, nord-américaine. C'est en fait le Québec et les gens qui ont des bagages d'éducation en France incroyables. J'ai accompagné un jeune homme qui suivait sa compagne qui faisait un post-doctorat et il avait un CV de fou, vraiment très très impressionnant. Et il est venu vers moi parce qu'il n'arrivait pas à trouver de travail. Et donc déjà, je lui ai dit, c'était avant la Covid. Et déjà, je lui ai dit, question, est-ce que vous avez un rendez-vous professionnel après moi? On s'était rencontrés en vrai et il m'a dit non. Je dis, alors pourquoi vous avez un costume très bien taillé au demeurant? Mais pourquoi vous êtes habillé comme ça? Il dit, parce que je vous rencontrais. J'ai dit, alors, OK, on va travailler déjà là-dessus. Simplicité, efficacité. Vous n'avez pas besoin de m'épater avec votre costume Hugo Boss à 3000 euros. Je m'en fiche complètement. Moi, je viens vous aider. Donc, venez en jean, venez comme vous êtes naturel. Si vous avez un rendez-vous, je comprends. Mais là, il a eu du mal à me tutoyer, etc. Puis, on a travaillé et j'ai dit, on vous a répété et que vous étiez sûrement l'élite de la nation. Vous avez un CV de fou. Vous avez un QI bien supérieur à la moyenne. Mais moi, je serais des RH, je vous embaucherai pas. Il me dit, mais pourquoi? J'ai dit, parce que vous êtes un peu coincé. vous êtes très sur vos théories. Il était absolument charmant et vraiment très, très sympa. J'ai dit, mais je vais vous former pendant quoi, 6 mois, 8 mois. Je lui ai donné quelques acronymes pour le tester. Il connaissait rien. J'ai dit, mais il me dit, ah ouais. J'ai dit, mais c'est normal, vous venez d'arriver. Alors, relax, c'est normal d'être en processus. Vous n'êtes pas parfait. Oh, c'est horrible. Vous êtes en terrain inconnu. Oui, les mines, on s'en fout ici. C'est qu'est-ce que vous êtes capable d'amener à l'équipe demain. Et donc, j'ai dit, moi, si vous me dites, ma femme fait un post-doctorat et on veut rester 5 ans, je vais peut-être miser sur vous. Mais si vous me dites, on reste 1 an et demi et je vais chercher du boulot à Paris, je vais pas miser sur vous parce que je vais vous former pendant X temps. Vous allez faire toutes les sottises possibles et imaginables au niveau relationnel. Puis quand vous allez être efficace, vous allez partir. Puis après, j'ai dit, mais qu'est-ce qui vous intéresse vraiment? Est-ce que vous pourriez imaginer pendant le post-doctorat de votre compagne de faire autre chose qui vous allume et que vous vous êtes jamais permis? Elle me dit, je sais pas. Donc, j'ai dit, ben, allez faire vos devoirs et revenez vers moi. Est-ce que ça vous intéresse de creuser ça? Puis finalement, il a trouvé un poste dans une association qui fait, nationale, qui fait du sport. Parce que c'était un fanatique de basket, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il avait un beau CV derrière de sport quand même haut niveau, et qu'il avait des... Donc, pendant le post-doctorat de sa femme, il s'est éclaté, il a développé un réseau de fous, et il s'est offert une opportunité qu'il n'aurait jamais fait en France. Et... ils sont partis finalement en Asie pour la carrière de sa femme, mais et j'ai pas de nouvelles depuis la Covid, mais j'ai trouvé ça fantastique parce qu'il sait, ça retire rien à son CV de fou, à ses études incroyables et à son QI supérieur, mais tout d'un coup il a lâché quelque chose et a dit, oh, si je m'amusais, si j'allais travailler dans, et il s'est éclaté et je suis sûre qu'il leur a apporté une plus-value dans l'équipe incroyable. Donc, c'est cette façon d'appréhender les choses. C'est cette agilité dans les actions, en fait. L'interculturel, c'est un mélange entre le pragmatisme et l'humanisme. Et c'est le défi de rester fidèle à soi-même en demeurant ouvert à l'autre. Et c'est le travail d'une vie, en fait.
C'est challenging, comme on dit en bon français.
Et oui, tout à fait.
Quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui s'apprête à venir au Québec ou qu'envisage de venir au Québec, qui a écouté cette émission, cette excellente émission, qu'il a réécoutée en boucle, voilà, histoire de faire tourner les compteurs et qu'il a partagé à tout le monde, bien évidemment, et qui se dit, OK, moi, je vais écouter Cécile. Et je vais faire l'effort. Je vais faire l'effort de savoir comment ça marche. C'est quoi les codes? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je dois changer dans ma manière d'appréhender? Ou qu'est-ce que je dois apprendre de nouveau pour être plus en phase avec le marché québécois? OK. Sauf que, où est-ce qu'il prend l'information?
Mais ça, c'est tout le défi, en fait. La première chose, je pense que c'est se faire une stratégie. Ça, c'est très nord-américain, mais j'aime beaucoup parce que c'est dire, OK.
La marketeuse est jamais bien loin.
Oui, c'est ça. La thématique interculturelle est tellement complexe et peut toucher tellement de milieux, le milieu de travail, le milieu, quand on a des enfants, les relations avec les parents d'élèves, l'éducation, les profs, etc. L'amitié, tout ce qui est réseautage, tout ce qui est en fait contact humain, c'est très important. Pour les gens qui ont le projet de venir au Québec ou au Canada ou partout dans le monde, je dis, faites-vous un plan d'attaque. D'abord, si vous êtes un lecteur de news, lisez les journaux locaux, la radio locale. Si vous aimez la littérature, plongez-vous. les mangas québécois, les trucs historiques, les romans d'amour, les BD, la sociologie, peu importe vos centres d'intérêt, allez avec vos centres d'intérêt personnels vous nourrir de la production locale. Vous êtes un fanatique de free jazz, plongez-vous dans le free jazz local. Maintenant, avec les réseaux internet, vous pouvez faire tout ça avant votre départ. Vous êtes un fanatique de pêche. Regardez, il y a des émissions de pêche locales de fou. Vous aimez la pop, branchez-vous sur la pop locale au-delà de Cœur de Pirac et de des stars. Creusez une thématique qui vous est propre. Vous aimez, je sais pas, le sport, le théâtre, le cinéma. Allez au cinéma, louez des films québécois pour vous imprégner. Vous allez rien comprendre, vous allez pas comprendre la langue, ils font référence à quoi, vous allez trouver ça nul ou très bien, peu importe, on s'en fiche. Mangez de la culture québécoise. Vous aimez le heavy metal, le heavy metal. C'est quoi les stars locales? Est-ce que vous aimez le underground? Let's go. Vous aimez, je sais pas, la permaculture? Informez-vous. Qu'est-ce qui se passe? L'architecture. Qui sont les stars de l'architecture au Québec? Sur l'écologie, pareil. Sur l'histoire, pareil. Peu importe vos centres d'intérêt. Mais allez vous nourrir de la même chose, mais du Québec ou du Canada, si vous voulez. Parce que ça vous permet de comprendre, finalement, que vous aimez ou pas, je m'en fiche complètement. Si vous avez dit, oh, le cinéma québécois, il est trop ceci, pas assez cela, oh, c'est trop lent, c'est trop rapide, c'est trop underground, je m'en fiche. C'est, vous allez devenir perméable à quelque chose. Et ce que vous allez intégrer, au fond, va vous permettre de vous faire une culture générale locale, d'être capable d'avoir des communs à partager quand vous serez au Québec avec un Québécois en disant « Oh, ben j'ai vu tel film, j'ai pas trop bien compris » ou « Oh, j'ai adoré ce film-là, oh, je comprenais pas tout, mais c'était waouh !» Ou alors « Cet artiste, j'ai découvert grâce au blog de je sais pas qui, cet artiste, en France, on n'en entend pas du tout parler, c'est génial !» Peut-être que votre homologue québécois va dire « Ah ben, je connais pas, il vient d'où ? Ah ben, il est de Trois-Rivières. Ah ouais, il a fait ça. Ah ben, il a un concert le week-end prochain, on pourrait y aller ensemble. » Paf ! Ça y est, vous avez un commun. La cuisine, si vous aimez la cuisine, mettez-vous sur des blogs québécois, des Instagrammeurs québécois qui font de la cuisine ou des recettes, des émissions de télé. Il y a Tout TV, il y a Radio Cannes. Juste pour vous imprégner de ça. Puis tout d'un coup, au bout de quelques temps, vous allez découvrir que vous commencez à faire des liens, des choses. Ah ben, tel cuisinier avait travaillé avec un tel, puis ils ont fait ça. Oh, wow! Donc, c'est faire des liens. Découvrir que tel cuisinier utilise l'agneau de Charlevoix. Ah ben, c'est où Charlevoix? Ah ben, ils ont un truc dans la viande bio, machin. Oh, wow! Donc, la prochaine fois, si vous êtes au Québec et que vous dites, ah, est-ce que vous avez l'agneau de Charlevoix pour... Et les gens vont dire, wow! Ils viennent d'arriver, ils sont déjà, ils parlent déjà de trucs importants pour nous. Donc, c'est une façon de connecter avec les gens et d'avoir des mêmes des référents communs, et puis de mieux comprendre. Ah, le festival FTA, c'est quoi FTA? Festival Théâtre des Amériques. Ah ouais, ça fait quoi? Ah, ils ont des programmations un peu étranges. Ah, waouh, mais c'est quoi, comment, la danse? Il y a des danseurs québécois de fou. Si vous aimez la télé, il y a des panoplies d'émissions qui sont accessibles, des romans. Quel que soit votre intérêt, vous allez trouver des pendants au Québec. Donc ça c'est la première chose. Pour ce qui est de l'aspect professionnel, bon là j'ai l'air de pluguer ma profession, mais c'est important. Formez-vous. Allez voir des conférences, suivez des webinaires. Il y a de l'accompagnement parfois, parce que c'est vraiment important de pour gagner du temps, pour s'éviter des chagrins inutiles. Parce que oui, parfois on a des chagrins d'amitié, des chagrins parce qu'on se sent pas reconnu à notre juste valeur. Peut-être juste parce que on n'a pas exprimé ce dont on avait besoin, ce qu'on offrait de façon recevable localement. Notre valeur professionnelle aussi. Peut-être que c'est juste une question de CV ou d'approche ou travailler votre réseau. Dans votre réseau, quel que soit votre réseau, quel que soit votre âge, votre milieu métier, même si vous êtes étudiant en première année, on s'en fout. Lancez-vous. Il y a toujours une cousine qui a un copain, qui un voisin qui est allé au Québec. Il y a toujours un professionnel qui a déjà travaillé avec quelqu'un au Québec. Au niveau professionnel, même démarche. Lisez la presse professionnelle de votre milieu local. Vous êtes dans le business, vous êtes lisez les affaires, lisez le supplément affaires du journal La Presse. Tenez-vous au courant de ce qui se passe, ce qui se fait pas, les défis, de manière à vous adapter plus rapidement, plus aisément. Travaillez votre anglais. C'est paradoxal, mais si vous voulez alors j'ai votre anglais de fond, c'est-à-dire votre vocabulaire, votre syntaxe, etc. Pas forcément votre accent. Puis arrêtez de stresser avec votre accent. Vous aurez un accent français absolument hideux ou adorable selon qui vous en parle. Ce qu'on veut, c'est être compris et que vous compreniez. Donc, si vous voulez avoir une chance professionnelle, ouais, travailler votre anglais, c'est une bonne idée. Arrêtez de faire des références tout le temps. Ah oui, en France, on fait comme si. Ah ben, vous pouvez dire ah en réunion de travail ou avec un collègue ou un voisin ou un prof de vos enfants, vous pouvez dire ah je suis surprise que vous ayez fait ça. Oh pourquoi on fait comme si ou j'aurais pensé qu'on aurait pu faire ça. Ça, c'est OK de dire qu'on comprend pas, il n'y a pas de souci. De dire, ah, mais je comprends pas parce qu'en France, les réunions, ça se fait comme ça. Ouh. De dire,
ça, ça, c'est super important.
Oui.
Alors, j'insiste là-dessus parce que c'est tellement naturel. Je l'ai fait aussi, donc la boulette, entre guillemets, je la prends pour moi. Je suis pas à l'abri de le continuer à le faire régulièrement. Mais tellement naturellement, on remet la France, ce sur quoi on vient sur le devant, comme si c'était le sujet.
Oui, tout
mais alors,
à
c'est
fait.
Pas le sujet.
On doit se décentrer, en fait. On est ici. Alors, si on comprend pas quelque chose, ou si on n'apprécie pas quelque chose, ou si on a une idée qui pourrait améliorer, les Québécois sont très ouverts à ça, en disant, OK, on fait la réunion lundi matin, mais j'ai pensé que peut-être les équipes seraient pas au courant de ceci ou de cela. Est-ce qu'on pourrait la faire mardi matin pour être plus effectif? Là, on vous dit oui, on vous dit non, on vous dit bon bah on a déjà essayé, ça marche pas, ou non c'est pas une bonne idée, ou on fait toujours quoi. On fait ok, mais si vous dites ah oui moi dans mon ancien ben en France on fait les réunions pas le lundi matin parce qu'on est la tête dans le sac, plutôt le mardi, ben pouf, c'est la même chose qu'on dit, mais en fait se décentrer tout le temps, avoir cet automatisme de décentrer et d'amener des solutions. Être en mode solution. Vous allez voir sur les descriptifs de poste, c'est orienté détail et solution. Il y a plein de choses qui marchent pas au Québec. On râle aussi, ça c'est une réalité différemment, mais on râle aussi. L'important, c'est pas de pas râler, c'est de dire ok, ça marche pas. J'ai pensé à telle solution et d'arriver avec une solution ou une idée de solution qui est quand même réfléchie. Et de dire, ok, ça marche pas de, je sais pas, faire, de livrer ce qu'on attend au client jeudi matin, parce que mercredi on a tel truc, mais si on s'organise pour que tous les secteurs soient à temps lundi, on pourrait gagner du temps pour être capable de. Là, ça a du sens. vous dites quelque chose que vous pensez qui fonctionne pas, vous amenez une solution. Ça ne veut pas dire qu'elle va être choisie, mais vous avez pensé plus loin que votre nez et vous avez montré que vous envisagez aussi les conséquences pour les autres. Donc là, c'est comme, ok, la fille ou le gars réfléchit, a un sens critique, a une vision, amène une solution et montre que cette personne a pris en compte la réalité des autres. Alors, comme je le dis, peut-être que votre solution ne sera pas du tout choisie, mais on s'en fout. Ça a du sens, c'est constructif.
Alors, la posture est différente.
Exactement. Soyez humble. Vous avez un CV de fou, vous avez eu un poste de fou, vous avez eu un salaire de fou. Très bien, tant mieux pour vous. Aujourd'hui, la situation est différente. Donc, arrivez avec à dire, ok, j'ai peut-être quelque chose à offrir, mais je comprends que vous m'attendiez pas. Donc, l'humilité. Ensuite, laissez-vous du temps. Soyez bienveillant. Alors, bienveillant pour les autres, en disant, bah, il s'exprime pas, il est comme si, il ne comprend pas, hein, ou mon collègue, et pour vous-même. L'intégration, l'interculturel est un processus. On n'est pas en comptabilité où ça doit tomber au cinte près, ou à la décimale près. C'est un processus, c'est un soft skill. On est en processus. Il faut faire une stratégie pour aller se former et chercher des outils, mais on est en train de construire une boîte à outils et vous prendrez des outils qui sont au début très rudimentaires, mais au fur et à mesure, vous allez développer une expertise qui va vous permettre de vous adapter plus vite, plus rapidement, plus profondément et avec plus de fluidité. Et aussi, ça vous demandera moins d'efforts. Mais au début, c'est exigeant. L'interculturel est exigeant. Donc, les conseils, c'est l'humilité, la bienveillance pour les autres et pour soi, la curiosité insatiable. Ils mangent quoi? Ils boivent quoi? C'est quoi les fêtes? C'est quoi les jalons culturels, historiques? C'est quoi les susceptibilités? Lancez-vous. Dimanche dernier, j'ai amené des Français... dans un pow-wow, pardon. C'est quoi un pow-wow?
Qui n'est pas qu'un groupe musical français.
Non, pas du tout. C'est une fête traditionnelle communautaire autochtone. Les Premières Nations et les Inuits sont extrêmement inclusifs. Ils sont très heureux que vous ayez fait 2 heures de route pour aller dans leur communauté et ils sont heureux que vous soyez là à partager, à découvrir. Même si vous connaissez pas, vous comprenez pas, ben, commencez par quelque chose. Incluez la découverte du Québec dans toutes ses strates. Si vous allez en week-end et que vous allez, par exemple, voir les baleines à
Tadoussac,
est-ce que vous pouvez faire un crochet pour aller sur une réserve ou un musée autochtone? Est-ce que vous pouvez, en allant au musée des Beaux-Arts, aller voir l'exposition fantastique au demeurant de Nicolas Party au musée des Beaux-Arts et aller dans les collections permanentes où il y a de l'art inuit et des Premières Nations? Est-ce que vous pouvez aller dans le quartier manger syrien ou acheter syrien ou aller au marché Jean Talon et aller dans la petite Italie ou aller manger de la poutine. Tu parlais de posture, c'est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment ça. C'est faire l'effort de développer un muscle qui est notre intelligence culturelle et peu importe d'où on part, l'important, c'est de construire là-dessus. Je connais rien à l'immigration québécoise. Je ne parle pas anglais. Ok, c'est ce que tu es aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de souci du moment où tu construis là-dessus. Je vais prendre un cours à McGill, un cours du soir. Je vais passer un week-end faire du tourisme autochtone. Ils ont il y a plein de sites tourisme autochtone qui proposent des trucs de fou. Il y a un festival caribéen. À Montréal, j'y vais. Ah ben, je savais pas qu'il y avait une communauté si grande. Ah ben, peu importe, il y a des festivals partout. Nuit, bon, maintenant c'est fini, mais Nuit d'Afrique, c'est fou, c'est des festivals de musique, on fait la fête, une qualité de programmation hors norme. Allez-y, à l'ONF, l'Office national du film canadien. L'Office du film national québécois.
Francophone. Oh,
là, je sais. Il y a des programmations gratuites où il y a peu importe. Allez vous nourrir de ce qui vous allume. Et puis, découvrez. Vous aimez le street art. Faites des visites dans Montréal pour découvrir qu'il y a des artistes de dingue à Montréal. Vous aimez la musique classique. Ben, allez, prenez... quand vous arrivez au Québec, découvrez les quatuors, l'OSM, qui sont les stars des milieux que vous aimez. Peu importe votre style, vos goûts, vos centres d'intérêt, mais allez les nourrir. En fait, allez vous nourrir de la richesse du Québec dans toute sa multiplicité.
Multiplicité.
Ouais. Donc ça c'est vraiment important. Puis si par exemple vous allez passer un week-end sur la rive sud, ben profitez-en pour découvrir un musée. Quand vous arrivez par exemple, venez à Montréal au musée McCord où il y a un super. C'est un musée qui met en valeur les Premières Nations. C'est un petit musée très riche, très dense. Vous n'avez pas besoin d'être une petite souris de musée pour avoir du plaisir.
L'expo sur la réconciliation au musée McCord est excellente ici.
C'est très pédagogique. Ça permet aux enfants, aux adultes. C'est à différentes strates. Lancez-vous aussi, si vous avez des enfants, lancez-vous dans les... Cherchez les éditeurs pour enfants de, par exemple, La Courte Échelle, Les 400 coups, qui font des livres pour enfants québécois. Mais c'est pas pour enfants québécois, mais c'est des maisons d'édition québécoises qui donnent une couleur spécifique. Vous allez voir votre libraire, quand vous arrivez au Québec, vous allez dans une librairie indépendante et vous dites, voilà, je viens d'arriver, je suis nouvel immigrant ou je suis en PVT ou je suis en expatriation, on s'en fiche. Je veux me faire une tête de ce qui se passe en ce moment. J'aime ci, j'aime ça, j'aime les thrillers, mes enfants ont 7 et 10 ans. Qu'est-ce que vous me proposez? Les libraires québécois ont une expertise hors norme et on est très, très choyés pour les librairies indépendantes et ils vont vous amener dans ce que vous aimez, avec votre sensibilité, et ils vont vous nourrir de ça. La grande bibliothèque, quand vous arrivez, si vous arrivez au Québec, à Montréal, allez chercher, dans la semaine vous arrivez, allez chercher votre carte gratuite de grande bibliothèque. Vous allez pouvoir prendre CD, DVD, livres, magazines. Vous aimez la beauté, vous allez pouvoir repartir avec 20 magazines de beauté ou de mode ou je sais pas quoi. Vous allez découvrir les stars du local, les marques locales, peu importe. Vous aimez le tricot, je suis sûre qu'il y a un magazine pour le tricot québécois.
Surtout que le tricot, c'est utile au Québec.
Oui, effectivement. Mais c'est cette posture de dire, ok, j'arrive, je peux faire quoi? C'est quoi les spécialités? C'est quoi la cuisine, la musique, le théâtre, la télé, la décoration? Est-ce que ça vous convient? Oui, non. Est-ce que on s'en fiche? Après, c'est vous qui avez vos choix et votre couleur.
Mais au moins, vous savez.
Donc, mais c'est cette aventure. En fait, il faut prendre ça pour une aventure. Puis des fois, ça marchera pas. Des fois, vous êtes déçu. Des fois, vous aimez pas. Des fois, c'est trop dur. Puis ça donne pas de résultat. C'est une aventure. C'est pas un divertissement, l'immigration ou l'expatriation. C'est une aventure. Donc, de prendre ça, il vous viendrait pas à l'esprit de partir à l'aventure sans vous préparer, sans vous former, sans prendre un guide, sans vous plonger avant dans, clairement, vous avez besoin d'informations. Donc, pour optimiser et fluidifier votre aventure, au Québec ou au Canada, donnez-vous les outils qui vont faire que votre expérience va être incroyable. Pour 6 mois en tant qu'étudiant, pour finir votre licence, pour faire un PVT, pour faire une expérience de 2 ans, Mais on s'en fiche, que ce soit 6 mois ou que ce soit 30 ans, peu importe, profitez positivement de tout ça. Puis les Québécois sont vraiment chouettes.
Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup l'allégorie sur l'aventure, parce que c'est exactement ça. C'est à la fois des trésors de préparation, et en même temps, quand on part à l'aventure, on sait aussi que la seule chose qui est certaine, c'est qu'il va y avoir des aléas. Voilà, et qu'il faut rester, comme moi j'aime à dire, c'est ma petite expression personnelle, très souple sur les pattes arrière, pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir gérer l'imprévu, même si on a tout fait pour prévoir.
Mais la formation en interculturel, par exemple en entreprise, si vous préparez au niveau professionnel ou personnel, d'être formé, d'avoir une boîte à outils, ne vous affranchit pas de l'enthousiasme et de la dimension de l'aventure. C'est juste que vous êtes plus adapté pour choisir. Au lieu de subir, vous allez pouvoir choisir. Par exemple, si on vous dit l'hiver est long, ok, l'hiver est long. Moi, si je viens de Maubeuge ou de Nice, l'hiver, j'ai l'impression qu'il est aussi long. C'est pas le même. Mais si on vous dit, on s'en fout de la marque, on s'en fout de l'esthétique, s'il y a un conseil, c'est bonnes chaussures, bonne parka, bonne moufle et bon bonnet, bonne tuque. C'est primordial. Je peux dire que l'expérience de l'hiver va être quand même autrement plus intéressant en ayant chaud qu'en ayant toujours un petit peu froid. Alors, l'hiver sera le même, vous serez la même personne, mais votre qualité d'expérience sera complètement différente. Et se former en interculturel, faire cette stratégie et ce plan, c'est ça. C'est la différence avec les bonnes bottes ou les mauvaises bottes. Et avoir froid aux pieds en hiver au Québec, c'est s'assurer d'être vraiment dans l'enfer. Alors que si vous avez chaud aux pieds, vous allez pouvoir vivre ce que vous avez à vivre, en fait.
Tu formes combien de personnes par an?
Ça dépend. C'est très aléatoire. Parfois, comme mes clients sont très éclectiques, parfois c'est des grosses cohortes. Donc, si c'est en éducation supérieure ou si c'est des entreprises que j'accompagne longtemps. Par exemple, ça peut arriver que j'accompagne pour certaines organismes des gens en précarité, par exemple des réfugiés en grande précarité. C'est un groupe que j'accompagne pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Parfois, ça peut être une conférence où il y a plusieurs centaines de personnes, puis c'est un one-shot. Donc, j'ai jamais chiffré ce genre de choses, en fait.
Mais il y en a eu quelques-uns quand même au final.
Mon Dieu, au fil des années, oui. Puis ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'en fait, comme les gens auprès desquels j'interviens sont extrêmement différenciés, c'est que ce soit les réfugiés qui arrivent dans des conditions terribles humanitaires, ou que ce soit des CIO, des petits jeunes qui sont hyper formés mais qui sont tout verts et qui connaissent pas encore beaucoup de choses dans la vie, ou des gens, par exemple, des familles qui se préparent à l'immigration, puis qui sont hyper sérieux, que j'accompagne, ou les entreprises. C'est des enjeux différents, c'est des besoins différents, c'est parfois aussi, c'est des richesses différentes, des outils différents. Par exemple, les réfugiés humanitaires, quand j'interviens auprès d'eux pour leur donner des outils pour mieux comprendre comment s'insérer dans la société québécoise plus rapidement, ils ont, de par leur vécu terrible, des outils que toi et moi, nous n'avons pas parce qu'on n'a pas vécu des choses effroyables. Donc, par exemple, à un moment donné, il y a dans une grande institution, il y avait un cadre moyen qui venait d'Afrique. Puis, il avait eu un conflit avec collègue québécoise pure laine, et la québécoise lui disait, mais tu peux pas te faire laisser traiter comme ça en réunion, si. Puis lui, il disait, écoute, après ce que j'ai vécu, la réunion, c'était du coton. Il dit, je choisis mes batailles. Mais elle était, il faut, on doit, nanana, ça se peut pas, nanana, équité, nanana. Puis lui disait, relax, j'ai un super boulot, j'aime ça, avec une bonne équipe. Oui, il y a des choses qui marchent moins bien, mais waouh, c'est, je suis en, et donc, cette capacité de se décentrer et aussi d'accepter que l'autre, il est différent. Donc, moi, quand j'accompagne les gens, que ce soit des jeunes ou des gens avec énormément de responsabilités ou que je sois HEC, je suis intervenue en MBA, relations internationales, c'était génial parce que c'était des gens qui venaient d'un peu partout déjà, qui avaient déjà une grande expérience de travail. Donc, quand je leur parlais, ça résonnait tout de suite, ils disaient oui, ils ont été extrêmement dynamiques et tout ce que je leur ai donné, ça faisait référence à du vécu. Alors que à la fin du printemps, je suis intervenue toujours à HEC, mais dans une maîtrise, donc l'équivalent du master, dans une maîtrise qui était en RSE, responsabilité sociale des entreprises. Et eux, ils étaient en formation, donc ils avaient peu d'expérience. Donc, ce que je disais, c'était encore de l'ordre de la théorie. Donc, eux, je leur ai donné beaucoup d'exemples pour qu'ils arrivent à intégrer ce à quoi je faisais référence. Mais des fois, ça peut être des petits jeunes qui arrivent en PVT puis qui ont besoin d'un peu de mentorat. Un coaching d'une fois ou donner des conférences, j'adore ça aussi parce que c'est grand public. Donc, on trace un portrait plus global de stratégies possibles ou en accompagnement des entreprises. Là, c'est vraiment comment intégrer l'EDI, équité, diversité, inclusion dans la stratégie RH, dans une vision globale, comment retenir les gens, être capable de faire de la rétention de personnel, qui se sentent bien et entendus, écoutés et pris en compte. Ouais, c'est un métier. Et puis des fois, il y a des formations classiques en management interculturel. Vous allez travailler, vous ouvrez une filiale en France. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? La manière de négocier, l'approche empirique ou théorique, le marketing.
Les sujets sont vastes, dis donc. Ouais, tout à fait. Cécile, on arrive à la fin de cette émission. J'imagine que ceux qui ont écouté ont encore des milliards de questions à te poser. Alors,
oui,
avec ton autorisation, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en commentaire de ce podcast tes coordonnées, celles de ton site internet, pour qu'on puisse te contacter, pour qu'ils puissent te poser ces questions directement. Sinon, on va être obligé de faire un balado d'à peu près 72 heures et ça serait un record mondial, ça serait super. On va persuader d'être très frais à la fin. Donc voilà, toutes les coordonnées sont en commentaire sur le site internet. Je te remercie mille fois. C'était d'une richesse folle et super intéressant. Merci beaucoup.
Merci à toi pour ton intérêt et puis pour le partage parce que j'essaye toujours de donner les clés aux gens que j'aurais aimé avoir quand je suis arrivée au Québec pour me faire gagner du temps. Donc,
et je vous assure, pour moi qui en suis à un peu plus de 2 ans maintenant, ça m'aurait été bigrement utile d'écouter cette émission. Il y a 2 ans ou 2 ans et demi. Profitez-en les amis et partagez autour de vous. Cécile, à très bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
Et voilà, Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com.
Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancée très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh bien, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu-frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu-frette, à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. Bah, j'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu-frette, FAISTUFRE2TE, à commercial. gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause. Car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.
Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.